France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Pour cette fin d'année, il nous est permis d'espérer et d'envisager un autre avenir. Et je pense aux personnes qui sont dans une situation délicate, à commencer par celles qui perçoivent les minima sociaux. À l'horizon des échéances électorales à venir, le réseau Coras, réseau qui regroupe près de 600 entreprises de l'économie sociale et solidaire, avance une proposition phare pour le prochain quinquennat avec la création d'un million d'emplois d'utilité sociale. Coras, c'est d'abord le réseau de l'emploi local et de la redynamisation des territoires en panne d'activité. Retour tout de suite sur cette histoire et sur l'impact de ce réseau. Nous appellerons ensuite un chef cuisinier, Patrick Geffroy, nouveau président des Bouffons de la cuisine, ou comment organiser un repas festif digne de Noël et de la fin d'année pour les personnes démunies et sans ressources.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Laurent Pinet, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes largement impliqué depuis très longtemps dans le réseau Coras, vous en êtes devenu le président. Quelle est la signification d'ailleurs de Coras ?
À l'origine, c'est coordination des organismes d'aide aux chômeurs par l'emploi. Ça, c'était la signification première des premiers temps, des pionniers dans les années 80, 84, 85, ouais. Lorsque le réseau est né.
On parle de l'IAE, de l'insertion par l'activité économique à travers différents modes de propositions. Coras avait cette perspective de développement des territoires avec l'accès à un emploi des personnes qui en étaient privées. Est-ce qu'aujourd'hui le mouvement s'est conforté? Et quand, c'est la deuxième question, je vous fais deux questions en une, c'est vache. Quand est-ce que ces CDDI, comme on les appelle très souvent, des contrats à durée déterminée d'insertion, vont devenir des CDI?
Ah, très bonne question. Effectivement, deux questions en une. Alors, la première, oui, le mouvement s'amplifie, oui, le réseau se renforce, se consolide. L'indicateur le plus simple pour le constater, c'est le nombre d'adhérents qui est en progression constante. Je reprenais un petit peu des documents de Coras. Il y a 7-8 ans, on était 500 adhérents. Aujourd'hui, on va franchir, je pense, dès la fin de cette année ou début de l'année prochaine, le cap des 600. Mmh. Et surtout, il se renforce par la diversité de ses adhérents. C'est vrai qu'au départ, le réseau s'est constitué, s'est forgé autour de structures purement de l'insertion par l'activité économique et purement sous statut associatif. Aujourd'hui, il regroupe des structures qui sont frères, sœurs de ces structures d'insertion par l'activité économique, qui peuvent intervenir en tant qu'organisme de formation, structure de service à la personne, employeur inclusif ou solidaire ou coopératif, mais non conventionné sous ce format particulier d'insertion par l'activité économique, et puis surtout sur des formes juridiques beaucoup plus diversifiées. Il y a de plus en plus dans le réseau aujourd'hui de sociétés coopératives d'intérêt collectif, de sociétés commerciales sous label ESUS, créées à l'initiative des associations, donc toujours sous format par contre d'entrepreneuriat collectif, ça c'est ouais. Vraiment l'ADN, collectif et territorial, voilà, ouais. Avec un fort ancrage territorial. Ouais. Et aujourd'hui, on fait de plus en plus le constat que la fonction de SAS, un petit peu de première de notre secteur, de salarier les personnes pendant un laps de temps déterminé et de les accompagner vers un emploi durable, elle a quand même un peu du mal à fonctionner partout, dans tous les territoires et tout le temps. Parce que le dynamisme économique n'est pas toujours là, parce qu'il y a des secteurs en tension, parce qu'il y a des employeurs qui parfois ne savent pas créer des conditions favorables d'emploi. Et c'est vrai que c'est toujours questionnant pour nous d'accompagner nos salariés vers des emplois qui ne seraient pas de bonne qualité ou qui seraient potentiellement de moins bonne qualité que les CDDI qu'on peut proposer. Donc de plus en plus, nos adhérents aussi se posent la question de créer des structures pérennes d'emploi pour vraiment imprégner le développement économique territorial et proposer des emplois de qualité. Alors ça a été la base de propositions qu'on a fait au gouvernement ces derniers mois dans le cadre de ce qui s'est appelé le pacte ambition EAE et d'une volonté politique forte de développer notre secteur, en proposant ce qui aboutit aujourd'hui au CDI inclusion, qui est la possibilité pour nos structures de contractualiser des CDI avec des salariés en parcours d'insertion dès lors qu'ils ont plus de 57 ans pour vraiment leur sécuriser leur emploi et les accompagner jusqu'à leur droit à la retraite. Après, ce qui est important, c'est effectivement pour nous de rentrer dans des modes de coopération, de partenariat, de rapprochement avec l'ensemble des acteurs du territoire, particulièrement les collectivités locales et les entreprises du territoire, les entreprises dites de droit commun ou classiques, pour effectivement construire des passerelles, construire des ponts, bâtir des ponts, mais aussi monter des projets ensemble, répondre à des appels d'offres dans le cadre de marchés publics, faire travailler les équipes ensemble, tout ce qui participe du décloisonnement et un peu de la déghettoisation de notre de nos activités, de notre secteur, n'a qu'un impact positif sur la dynamique et l'autonomie de nos salariés et leur capacité à revenir sur l'emploi de manière durable.
Ouais. Les syndicats vous entendent dans la force de frappe que représente Coras aujourd'hui?
Pas suffisamment, dans le sens où c'est vrai que la question de la défense des demandeurs d'emploi, parce que bien trop souvent et depuis trop longtemps, nos salariés se revendiquent comme des salariés, nous les considérons comme des salariés, sauf que dans le radar des pouvoirs publics et des organisations syndicales, parfois ils sont considérés comme des demandeurs d'emploi. Donc c'est un point de difficulté qu'on arrive de plus en plus à dépasser. Hein, et je salue des partenariats qu'on arrive à monter au niveau local et au niveau national de plus en plus avec les syndicats, parce que les regards changent, la vision change. Et là-dessus aussi, les décloisonnements sont en route. Donc les choses se rapprochent, j'ai envie de dire.
Une bonne nouvelle pour conclure l'année, avec la suite à suivre. Alors vous allez sur le site Coras, deux os comme la coopération et le coopératif, coras.org pour l'adresse. Merci Laurent.
Merci Philippe.
France Inter, carnet de campagne.
Comme la solidarité prime à tous les niveaux dans cette édition des carnets, voici encore un bon exemple de programme d'accueil et de lutte contre l'exclusion. Nous sommes au cœur d'Antipole, la future gare de la ligne 18 du Grand Paris et donc sur un site en chantier. C'est ici que depuis deux ans sont laissés vides les anciens entrepôts logistiques d'Universal Music. 22 000 mètres carrés d'espace à remplir et à utiliser pour la bonne cause, puisque l'association Aurore y accueille, à l'image des grands voisins à Paris, des entreprises en devenir et des porteurs de projets, comme on les appelle souvent, soit 115 sources d'activité. Je ne sais pas si le nombre est voulu, 115, car c'est aussi un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Ce programme est soutenu par la région Île-de-France et il veut être une pépinière humaine de talents et d'initiatives de l'économie sociale et solidaire. Ce site d'occupation temporaire est géré par la coopérative du PADAF, drôle d'acronyme pour désigner la plateforme des acteurs de demain. D'ailleurs, il est écrit dans le courriel que nous avons reçu qu'il s'agit de la plateforme des actrices de demain. J'ai vraiment du mal avec l'écriture inclusive systématique, passons. Ce qui nous concerne est le travail accompli par l'association Aurore, née à Paris en 1871 et qui héberge, soigne et accompagne plus de 40 000 personnes en situation de précarité ou d'exclusion. Aurore intervient depuis une période plus récente dans 7 autres régions et fait un travail absolument remarquable. Vous allez trouver les liens avec le PADAF et avec l'association Aurore à nos pages d'émission. Patrick Geffroy, bonjour.
Oui, bonjour Philippe.
Nouveau président des Bouffons de la Cuisine. Les Bouffons de la Cuisine, c'est une association que l'on doit depuis 2017. Hein, vos confrères, vous Patrick, vous avez été un grand chef. Vous avez décidé de raccrocher parce que l'âge de la retraite arrivait, mais vous n'abandonnez pas le piano pour autant. Et vous avez succédé donc à Michel Trama, créateur de cette association. Les chefs pensent à ceux qui n'ont pas les moyens de manger sainement.
Oui, vraiment. Et Michel, il pensait depuis très longtemps déjà. Il s'est investi vraiment à fond là-dedans et il a demandé à énormément de chefs de suivre son mouvement. Je crois qu'on a 22 villes cet hiver pour faire des dîners de Noël. Et puis, comme on peut pas les faire au Noël, on va les faire aussi au mois de janvier. Et puis après, on va faire des choses pour les étudiants. On va faire des choses avec une mutuelle de médecins pour les étudiants en médecine. On veut avoir des chefs aussi qui vont faire des recettes faciles pour les étudiants qui sont là dans des petites kitchenettes pour faire à manger, mais pour leur apporter, quand ils mangent, un vrai plaisir, sans pour cela faire du 2 étoiles, du 3 étoiles, du 1 étoile, faire quelque chose qui a du goût, vous voyez, voilà. Et ça, tout ça, c'est les idées de Michel Trama.
Et alors, la grande idée des Bouffons de la Cuisine, c'est quand même les tables de Noël.
C'est le début. On s'associe avec la Croix-Rouge, les restaurants du cœur, le Secours populaire, et on s'associe à ces gens-là pour qu'ils nous trouvent des personnes, malheureusement c'est pas difficile à trouver, qui sont dans la difficulté. Ouais. On essaye de demander au chef de faire des tables jolies, avec des nappes, avec des boules de Noël, enfin, les recevoir dans le plaisir, parce que l'année dernière on n'a pas pu le faire. Avec le Covid, on a été obligé, mais on a fait quand même quelque chose, on a honoré notre association et on a fait des plats emportés. Et voilà, cette année, de nouveau, on croise les doigts parce que ça se présente pas trop bien quand même avec le Covid. Mmh. On espère pouvoir asseoir tout le monde.
Mais alors, comment se déroule l'opération, Patrick?
On fait appel. Je fais appel. Bon, on est plusieurs à se relayer là-dessus. Je suis pas tout seul. Hein, à se relayer, à faire appel à des chefs dans des villes. Et puis, on a des qui veulent bien participer, s'investir pour une journée. Alors, on demande pas qu'à des cuisiniers. Hein. Moi, je veux qu'il y ait des pâtissiers, des boulangers, des charcutiers, des gens de métier de bouche qui viennent avec nous, parce que tous ces métiers sont des métiers alimentaires pour le plaisir. Et puis, on a la chance d'avoir des grosses sociétés qui nous sponsorisent. Et cette année, on a aussi un guide gastronomique qui a été généreux avec nous, parce qu'il nous a donné 10 000 euros, vous rendez compte. Voilà. Et donc, avec tout ça, on va aussi, on espère s'appuyer sur les écoles pour faire des... Comme on a un petit peu d'argent, est-ce qu'on va pouvoir peut-être payer des petits jardins dans les écoles pour les enfants, pour faire découvrir les légumes qui poussent, et peut-être qu'avec un chef, quand le légume est poussé, aller le cuire avec les élèves. Enfin, on a envie de faire tout ça. Voilà, on a envie de faire tout ça.
Ouais. Mais alors donc, pour ces fêtes de fin d'année, vous lancez un appel aux chefs cuisiniers, aux boulangers, aux pâtissiers, aux artisans chocolatiers, aux fromagers, torréfacteurs, tous les bénévoles qui peuvent entrer dans l'organisation. Mais ensuite, vous êtes en lien avec des associations pour préparer un lieu d'accueil.
Oui, exactement. Avec les mairies, avec les associations, avec des chefs qui veulent bien les recevoir quand le restaurant est fermé, parce que tout ça, ça se fait que dans des endroits sécurisés. On reçoit pas les gens dans n'importe quoi.
Bien sûr.
Il faut que l'endroit soit sécurisé, avec des sorties de secours, etc. Et les mairies nous suivent aussi pour ça. Et donc, on reçoit tous ces gens qui viennent. Vous savez, voir des enfants rentrer dans une salle comme ça, dans laquelle ils n'ont jamais été, ou ils ne se sont jamais assis à une table de restaurant, qu'on vient les servir... je peux vous dire que c'est un bonheur de faire ça. C'est un bonheur. La récompense est là.
Et alors, il y a d'autres choses qui mijotent dans le fourneau. Il y a entre autres une école du goût.
Voilà, exactement. Cette école du goût avec les enfants, on espère. Et bon, alors, on n'a pas peur. Hein, on va demander aussi à des grosses entreprises de jardinerie de savoir s'ils peuvent nous aider pour savoir si on peut faire des jardins et avec les chefs aller dans les écoles. Ça se fait déjà, hein, parce que Jean-Luc Petit-Renaud l'a devancé depuis longtemps et ça continue et c'est bien. Mais on a envie de continuer à notre façon à nous, de le faire dans les écoles, avec les enfants. Si on peut avoir des endroits où on pourrait avoir des poulaillers, vous voyez, ça paraît bête, mais bientôt les enfants sauront plus que c'est un œuf.
Oui. On va vous trouver ça, Patrick. En attendant, les amis, rejoignez le mouvement des bouffons de la cuisine, lesbouffonsdelacuisine.org pour l'adresse. Merci beaucoup, Patrick.
Merci beaucoup, Philippe Bertrand. Merci beaucoup.
Juste avant de rejoindre le jeu, je rappelle qu'au mois de janvier 2022, nous serons dans le Tarn, dans le Loiret, dans l'Yonne, et également en Seine-et-Marne. N'hésitez pas à nous écrire depuis ces départements.